Considérant donc que l'apôtre Paul, considérant que chaque église locale est précieuse aux yeux de Dieu, c'est une de ses plus belles œuvres. Le texte dit qu'il s'agit de la famille de Dieu, de l'église du Dieu saint. Il donne des prescriptions pour que, à la tâche qu'il qualifie de noble et de belle, d'en être responsable de cette église, eh bien, s'attellent les meilleurs dirigeants, les meilleures personnes. Et nous nous sommes dimanche dernier attachés surtout aux personnes. Des responsables qui reflètent véritablement la personne de Christ, qui était le modèle du serviteur, le modèle du responsable dans son parcours sur cette terre. Et il faut que l'Église, recommande l'apôtre Paul, se choisisse et s'assure que parmi les responsables qu'elle va se donner, ce soit des hommes qui ont la maîtrise d'eux-mêmes que donne le Saint-Esprit, que l'œuvre de Saint-Esprit soit vraiment accomplie, ou en tout cas en cours d'accomplissement profond dans leur vie. Et il faut que ces personnes aient une autorité particulière avant d'avoir l'autorité sur l'Église, sur leur propre caractère, sur leurs propres pulsions, sur leurs émotions, sur leurs tentations. On les a passées en revue. Rappelez-vous, l'orgueil, les femmes, l'argent. Que ces personnes aient une maîtrise sur leur langue et que dans le cercle familial et dans le cercle conjugal, déjà, ces personnes démontrent exercer une autorité qui est saine selon Dieu, et enfin dans la société, qu'elles donnent un témoignage visible qu'elles honorent le Seigneur par leur vie. Rien de moins qu'une recherche, et c'est résumé en un seul mot, inattaquable, irréprochable en tête de toute cette liste, rien de moins que la perfection de Christ qui est attendue d'elles. Et bien entendu, on se dirait, mais personne n'est à la hauteur de la tâche, si ce n'est que chacun d'entre nous, nous sommes appelés, et nous avons vu que finalement ces exhortations nous concernent tous d'une certaine façon, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès vers cette perfection de Christ dans nos vies, avec la grâce, l'amour et la persévérance que lui seul peut nous donner. Dimanche dernier, nous avons donc beaucoup parlé de ces personnes et des qualifications que l'apôtre Paul expose. Aujourd'hui, nous allons nous attacher plutôt au ministère. Et de la même façon que l'apôtre Paul a souhaité donner à l'Église les meilleurs responsables, les meilleures personnes qui soient pour qu'elles soient en responsabilité dans la direction de l'Église, dans la conduite de l'Église, nous allons voir aujourd'hui que ce qu'il souhaite, c'est que ce soit les meilleurs ministères et les ministères les mieux harmonisés qui soit donné à l'Église pour sa conduite. On va relire dans un premier temps ce texte de 1 Timothée que je vous affiche ici, et j'ai rajouté entre parenthèses quelques nuances de traduction qui sont utiles à la compréhension, je crois. On est toujours édifié par le recours à d'autres versions lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Je vais lire ce texte avec ces nuances entre parenthèses, parce que ces nuances nous renseignent d'emblée sur les fonctions auxquelles nous allons nous attacher là ce matin. Et ensuite, nous aurons recours et nous élargirons beaucoup ce matin par rapport à ce texte, à des textes dans les Épîtres, dans les livres des Actes également. Et que constatons-nous dans ce texte? En fait, et je vous donne d'emblée la clé, que tout tourne autour d'une question de l'autorité. Celui qui aspire à être un dirigeant, d'autres traductions en surveillant ou évêque, dans l'Église, désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant, le surveillant, l'évêque, soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. On traduit aussi mari, dans le texte original, d'une seule femme, faisant preuve de modération, réfléchie et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit être ni buveur, ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres, qu'on peut traduire par serviteurs. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les diaconesses. Le texte, dans l'original, dit les femmes. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et qu'elles soient dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres, ses serviteurs, soient des maris fidèles, maris d'une seule femme. Qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je vais commencer par quelques considérations générales sur l'autorité dans la parole de Dieu. On va sortir de ce texte, simplement prendre un recul et de s'apercevoir qu'au commencement, Dieu a instauré ce principe de l'autorité. Et on peut lire toute l'Écriture avec un espèce de fil rouge en tête qui est celui de l'autorité. Comment est-ce que les choses se passent ? Dieu, l'Épître aux Corinthiens nous dit, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Et dès l'œuvre de la création, vous savez que du chaos initial, c'est-à-dire vraiment le désordre par excellence, Dieu a voulu faire émerger l'ordre de sa création. Il y a des lois, des mécanismes bien réglés dans toute cette création qui sont totalement admirables et qui sont suffisants déjà en eux-mêmes pour nous convaincre que Dieu, d'abord, est le maître de cette création, qu'il a autorité sur elle et qu'il a fait les choses bonnes. Dieu a fait l'homme et il lui a délégué cette autorité pour le bien de l'ensemble de la création. Il lui a donné l'autorité sur la création. Mais dès le début, Satan, le contestateur depuis les temps anciens de l'autorité divine, a cherché à instaurer le désordre par la désobéissance. Et on est là à l'épisode de la chute, avec des conséquences multiples et universelles sur la création, sur la relation de l'homme avec la nature, sur la relation de l'homme avec lui-même, sur la relation de l'homme avec la femme, sur la relation de l'homme avec sa famille, sur la relation de l'homme avec la société tout entière au niveau politique. Et ce que nous vivons, je crois, en est bien le témoin. Dieu a voulu faire de l'exercice un service pour le bien de ceux sur qui elle s'exerce. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Romains. C'est-à-dire que le principe de l'autorité exercée pour le bien des autres est un principe universel, créationnel carrément. Satan a perverti l'autorité en domination. Et dans les conséquences de la chute, on l'a évoqué la semaine dernière dans Genèse au chapitre 3, verset 15, il y a justement cette transformation d'une autorité saine en domination et de la soumission volontaire en rivalité. Et cela ne se traduit dans notre monde que par souffrance, rivalité, au lieu de l'harmonie que Dieu a voulu dans les relations humaines. Elles sont le reflet des dysfonctionnements de toutes les strates des relations humaines, le couple, la famille, la société, la politique. Et l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible, donc, va nous faire une démonstration par des exemples nombreux de toutes ces conséquences d'un mauvais exercice de l'autorité ou d'un bon exercice de l'autorité, d'une insoumission à l'autorité ou d'une soumission à l'autorité, l'autorité divine, mais aussi l'autorité déléguée à l'homme. Voilà ce qu'on peut dire des commencements. En Jésus-Christ, et je fais des grands raccourcis, vous le voyez, Dieu a donné au monde l'image de la soumission parfaite et de l'autorité parfaite également. Un service librement proposé, cette autorité, pour le bien et l'harmonie des relations. Christ a fait la démonstration que ce concept que Dieu a créé était bien fondé et qu'il était voulu de Dieu son Père. Lui-même s'y est soumis, lui-même l'a mis en œuvre. Et par le Saint-Esprit, maintenant, que nous appartenons à Dieu, Dieu produit chez ceux qui se soumettent à lui un changement profond du caractère, un changement de cœur qui est nécessaire pour que des fruits vraiment d'amour, de paix, de patience se manifestent, et particulièrement dans les relations les uns avec les autres. Nous avons beaucoup parlé la semaine dernière des fruits de l'Esprit qui sont assez parallèles aux qualifications que Dieu a demandées aux responsables dans l'Église. Dieu la délègue, cette autorité, également aux individus, en charge de cette autorité, dans toutes les sphères professionnelles, politiques, civiles, l'Église, pour le profit des autres. Elle est toujours pour le profit des autres. Et par la construction de l'Église, on va terminer par cette étape-là, Dieu veut faire la démonstration que par une soumission libre, volontaire, à une autorité qui est elle-même pleine d'amour, de grâce, eh bien, l'Église peut devenir une communauté nouvelle, une communauté humaine de paix, d'amour, de respect, de grâce, d'harmonie, et on pourrait multiplier les qualificatifs. C'est ce que Dieu veut pour l'Église. Et donc, tout ce que nous allons voir maintenant découle de cet objectif, ce dessein de Dieu universel qu'il met en œuvre, qu'il a mis en œuvre en Christ, qu'il a voulu mettre en œuvre dans son peuple, ça a été l'échec, et qu'il met maintenant en œuvre dans l'Église. L'enjeu, donc, n'est pas négligeable. Une première chose que nous voyons dans ce texte, c'est qu'il est bénéfique que les charges d'autorité, en particulier celles de service aussi que nous allons voir, soient bien identifiées dans l'Église. Et on peut faire un petit raccourci sur l'histoire de l'Église. L'Église est née à Jérusalem, à la Pentecôte. À ses débuts, l'autorité reconnue au sein de cette communauté de croyants dans la ville de Jérusalem, c'était les apôtres, ceux qui avaient été témoins de la vie et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et ceci établissait leur légitimité en tant qu'autorité parmi cette communauté. Mais très rapidement, la communauté des chrétiens augmentant à Jérusalem, il y avait des conversions en masse, il a fallu commencer à structurer cette autorité. Et on a un épisode dans Actes au chapitre 6, que nous détaillerons un tout petit peu plus loin, qui montre qu'il y a eu d'emblée mise en place d'autorités humaines au service de la communauté. Pour le fonctionnement dans son bon ordre. Et ensuite, lorsqu'on avance dans le livre des Actes, dès Actes chapitre 11, on est donc encore au tout début de l'Église, on voit apparaître une notion d'autorité instaurée dans l'Église, qui est la notion d'ancien, qui était en responsabilité dans ces Églises. Peu à peu, l'Évangile s'est diffusé, des Églises se sont disséminées, se sont créées dans différentes villes, et il est devenu rapidement évident que devait être légitimée une structure d'autorité dans chacune de ces communautés. On ne pouvait pas laisser les choses au hasard comme ça, ou tacite, ou sous-entendu. Et donc Paul et Barnabas nous disent que quand ils eurent évangélisé, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est Actes chapitre 14, verset 23. Et un peu plus tard, donc, l'apôtre Paul va écrire cette lettre à Timothée, ensuite la lettre à Tite, et en ces termes, à Tite, il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Les églises naissantes ont besoin d'une autorité reconnue, légitime, qui est au bénéfice de l'Église. » Parce qu'il y a des dangers à ce qu'une autorité ne soit pas identifiée. Et très rapidement dans les églises, et les apôtres avaient prévenu, il y a des hommes dénués du respect de Dieu qui ont contesté ces autorités qui étaient en place. Et ils se sont autoproclamés eux-mêmes. On a un verset dans la troisième épître de Jean, au verset 9, où il nous est dit qu'il nous est parlé d'un certain Diotrèphe, on ne sait rien de plus à propos de lui, mais il est dit qu'il aimait à être le premier parmi eux, parmi cette église à qui Jean écrivait. Donc cette notion que certains s'autoproclament ou s'instaurent ou se sentent autorisé à l'autorité d'une manière sous-entendue, ce n'est pas nouveau. Et à Éphèse, nous avons bien développé la semaine dernière le contexte par rapport à cette autorité, l'apôtre Paul avait averti déjà d'avance qu'il y aurait des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui mettraient à mal donc la communauté chrétienne. Dieu n'a pas laissé l'Église livrée à l'anarchie. Et c'est un bienfait de sa part, de sa bienveillance, de son amour, que d'avoir voulu lui donner des enseignements pour que l'autorité soit reconnue et que l'Église ne soit pas livrée à des autorités tacites, sous-entendues, non reconnues publiquement, illégitimes, et qui ne sont au final pas respectées, parce que cela risque de déboucher sur deux conséquences lorsqu'une autorité n'est pas identifiée et légitime. L'abus de l'autorité, ou au contraire l'anarchie, l'irrespect de cette autorité, l'absence surtout de contrôle de cette autorité, et de remise de compte à la communauté, qui paraît quelque chose d'évident lorsqu'on exerce un service pour la communauté dans le domaine de l'autorité, que l'on en rende compte. Et le refus aussi, bien entendu, si ces autorités ne sont pas identifiées, d'une répréhension lorsqu'elles fautent. On va le voir un tout petit peu plus loin. Donc cette autorité que Dieu a voulu instaurer dans l'Église, ça s'est traduit par quoi ? Ça s'est traduit par des consignes précises que nous voyons ici dans 1 Timothée au chapitre 3 et en d'autres textes de l'Écriture qu'on va parcourir, pour y nommer des responsables qui soient reconnus selon des critères bibliques qui sont parfaitement déterminés, et ce n'est pas livré au hasard. Et donc, ça se traduit par le respect de ces autorités et leur assurance accrue dans le ministère. Au verset 13, l'apôtre Paul, du texte que nous venons de lire, il dit « Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Ça se traduit aussi par une garantie contre les fausses accusations. Et dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 19, un texte sur lequel nous viendrons dans la suite des prédications, l'apôtre Paul dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » C'est-à-dire qu'on ne bafoue pas l'autorité, on ne la critique pas non plus sans raison. Et par une juste évaluation, je répète, des consignes précises pour les déterminer, le respect de ces autorités dans leur exercice, une garantie contre les fausses accusations et une juste évaluation. Dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 17, là encore, l'apôtre Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et on verra de quoi il s'agit. Et dans 1 Timothée 5, verset 20, c'est l'opposé, c'est la réciproque. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. C'est-à-dire que quand une autorité est légitime, elle a des droits, elle a des devoirs également vis-à-vis de la communauté, et la communauté en a également des droits et devoirs vis-à-vis d'elle. Et nous allons voir maintenant parcourir un peu rapidement les termes que l'Écriture emploie, parce que dans ce texte que nous avons lu, il n'y en a que deux de ces termes. Mais nous allons voir que l'Écriture est riche de plusieurs termes pour qualifier l'autorité dans l'Église. Le premier terme que nous allons aborder, c'est celui qui est abordé en premier dans ce texte ici, et celui qui est surtout représentatif de l'autorité exercée dans l'Église. Si on prend l'ensemble du Nouveau Testament, les termes sont très nombreux pour cette autorité-là, la première qui est en charge de l'autorité dans l'Église. Premier terme que nous voyons ici, j'avais fait une transcription en français l'autre fois, je l'avais appelé épiscope, en grec c'est l'épiscopos, et ça veut dire littéralement celui qui est le surveillant, celui qui est le superviseur en quelque sorte. Et c'est un terme qui vient plutôt de la culture grecque et qui sous-entend une fonction. Et derrière ces termes, je vous ai dit, on va dégager les fonctions. C'est celui qui veille, celui qui protège. Dans Actes, au chapitre 20, lorsque l'apôtre Paul s'est adressé aux anciens de l'église d'Éphèse, il recommande « Prenez garde aux troupeaux, veillez donc !» au verset 28, au verset 31. Et Christ, l'Écriture nous le présente comme étant un modèle de celui qui veille, justement, qui veille sur l'église. Dans Apocalypse, au chapitre 2, on voit Christ au milieu des églises et il regarde les églises, il veille. Et on voit Christ qui est appelé dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, verset 25, le gardien de nos âmes. Donc celui, et le terme employé est épiscopos, c'est-à-dire que le veilleur par excellence, c'est d'abord et avant tout Jésus-Christ. Mais Dieu a voulu déléguer cette fonction aussi à des hommes qui sont évoqués ici. Et donc ce terme évoque la vigilance au service du bien de l'Église, vigilance au maintien de la vérité, vigilance quant à la dénonciation et le combat contre les erreurs et leurs porteurs. Il évoque aussi le discernement, celui qui veille doit avoir l'œil, le discernement avisé sur les personnes, sur leurs besoins, sur l'état de chacune. Et j'aime bien, je l'avais laissé à Raph un peu le jour où nous avions imposé les mains pour ce début de son ministère, ce verset dans le livre des Proverbes qui dit « Connais bien chacune de tes brebis ». Connais bien chacune de tes brebis. Et ça doit être une mission de chacun des anciens, des épiscopes, que de bien connaître chacun des membres de l'Église. Et ce terme, donc, est à mettre très en parallèle avec un autre terme qui est employé pour le même type de personne, qui signifie pasteur, berger. Et ce terme émane plutôt de la culture juive, où le pastoralisme était vraiment très courant, l'élevage des animaux. Et on le retrouve là encore dans l'épître de Pierre pour nous dire que Christ est le modèle, il est le berger de nos âmes. Il est le berger de nos âmes, lui. Et ce terme évoque plutôt une autorité qui est tournée vers les personnes, non pas vers la défense de la vérité ou la proclamation de la vérité, mais vers les personnes plutôt. C'est le domaine du pastoral, c'est le cas de le dire, le terme vient de là, pasteur, berger, etc. C'est l'image de la brebis qui a besoin de soins pour ses blessures, qui a besoin de nourriture, qui a besoin de protection. Il s'agit de veiller sur tous ceux qui, dans le troupeau, par exemple, sont affligés par la maladie. Et l'apôtre Jacques va dire aux anciens, eh ben, vous allez chez la personne qui est malade, qui est affaiblie, découragée dans la maladie, pour lui imposer les mains. Et il y a un accent particulier qui est sur la bienveillance, l'attention. L'attention aux veuves, par exemple, dans le cadre de l'Église, que l'Épître à Timothée aborde un peu plus loin, on en reparlera. Il y a là une manifestation particulière de la bienveillance, de l'amour de la part de ces personnes, de l'attention. Et Éphésiens, au chapitre 4, verset 11, parle de ce domaine du pastorat, du berger, du pasteur, un peu plus comme un don spirituel, c'est-à-dire que les anciens n'en sont pas forcément les seuls détenteurs, mais les anciens se doivent d'en être détenteurs, et ils l'associent avec le don aussi d'enseigner, parce que l'enseignement consiste à donner la nourriture au troupeau de Dieu, à la famille de Dieu, à l'Église du Dieu saint. En lien avec cela, je veux juste relever ici, dans le texte qu'on a lu, une qualification que je n'ai pas abordée la semaine dernière, à savoir que l'ancien se doit d'être hospitalier. Et je pense qu'elle est à mettre en relation cette qualification hospitalier, c'est-à-dire qu'il soit prêt à ouvrir une maison, à accueillir quelqu'un à sa table, à accueillir peut-être quelqu'un pour l'héberger un temps. Elle est à mettre fortement en relation avec ce ministère de pasteur. Parce que à quel moment meilleur que celui-ci, on peut avoir des discussions, on peut voir des cœurs s'ouvrir, on peut donner des conseils que parfois on ne peut pas donner d'une façon beaucoup plus abrupte. Et on remarque que Jésus, qui a été donc le divin pasteur, le temps qu'il a passé avec les gens à table, à des repas, et à tel point qu'on lui a dit « mais c'est un buveur et un mangeur, cet homme-là, quand on a voulu le critiquer ». Jésus a passé un temps considérable au repas et on s'aperçoit que beaucoup de son enseignement a été donné autour d'une table. Et il y a là tout un ministère d'hospitalité qui est extrêmement important et auquel les épouses des anciens collaborent nécessairement, sauf à connaître nos anciens et croire qu'ils ont de grands talents de cuisinier pour être eux-mêmes les artisans de ces invitations et cette hospitalité. Mais les épouses ont un rôle important dans cette hospitalité et je pense que c'est l'occasion aussi de temps en temps d'en être reconnaissant et de leur rendre hommage pour ce ministère. Le troisième terme que l'on trouve beaucoup dans l'Écriture, et c'est celui que l'on trouve le plus fréquemment, et je trouve que c'est dommage parfois de ne pas le traduire tel qu'il apparaît dans l'Écriture, c'est-à-dire c'est le terme ancien. Et c'est un terme qui émane beaucoup de la culture juive, là encore. Moïse, rappelez-vous, dans l'Écriture, avait nommé des anciens à ses côtés pour le seconder dans son ministère d'autorité auprès du peuple. Les rois avaient des anciens à leur côté à titre de conseil. Les villes étaient dirigées par des conseils d'anciens. La synagogue était dirigée par un conseil d'anciens également. Donc c'est un terme qui vient de loin dans l'histoire des relations de Dieu avec son peuple. Et ce terme revient le plus souvent dans les épîtres et il évoque, quand on évoque ancien, la notion de sagesse, la notion de référence, la notion de maturité, d'expérience, de capacité de conseiller. Et il sous-entend aussi des qualités que l'on retrouve dans cette liste que nous avons lue de 1 Timothée au chapitre 3. Il recoupe aussi ces qualifications de pacifique, de douceur, de grâce, de pondération et de modération aussi dans ses propos. Ce terme soulève une question. À quel âge est-on sage ? Et je crois que l'Écriture répond. Incontestablement, il y a nombre de textes dans le livre des Proverbes et dans des exemples dans l'histoire du peuple d'Israël qui montrent que l'âge est un facteur de sagesse, incontestablement. Mais ce n'est pas une garantie. Et l'Ecclésiaste, dans le chapitre 4, le verset 13, montre qu'il y a des limites à cette relation entre l'âge et la sagesse, et que ce n'est pas forcément systématique. On peut être un jeune sage et on peut être un ancien fou. L'Ecclésiaste dit « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Et on voit ça parfois au sein des familles, que des enfants sont parfois plus sages que les parents. L'idéal est certainement, si on revient à l'Église, qui est de notre propos actuellement, c'est que ceux qui, dans une Église, allient l'expérience, la sagesse qui a été démontrée dans le passé, soient écoutés et sollicités en cas de besoin. et c'est une richesse que d'avoir une église intergénérationnelle où il y a ces recours. Dans l'écriture, et je passe très très vite maintenant, il y a trois autres termes qui sont beaucoup plus ponctuels et qui évoquent beaucoup plus le leadership, la conduite. Il y a les conducteurs, dans Hébreux chapitre 13, il y a ce que l'on appelle des gouverneurs, ceux qui tiennent le gouvernail, comme dans un bateau, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, et il y a des dirigeants, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Voilà, nous avons fait un peu un parcours de ces différents termes qui évoquent d'emblée nombre de fonctions de cette catégorie, cette première catégorie, qui a en charge en particulier l'autorité dans l'Église. Et je voudrais faire ici, pour prolonger un tout petit peu, quelques remarques au sujet de cette première catégorie de responsables. La première, c'est qu'il y a une stricte équivalence entre chacun de ces termes. On ne parle pas d'un côté d'épiscopos, qui a donné le mot évêque, et puis de l'autre des anciens qui éventuellement se soumis. On ne voit pas de hiérarchie au sein de ces personnes. Et on voit une chose, c'est que chaque fois qu'il n'est pas question simplement du personnage lui-même et des qualités qui sont requises, que ces termes sont toujours au pluriel. Lorsque Paul et Barnabas font nommer, ils ne font pas nommer un ancien par église, ils font nommer des anciens. Et on retrouve là un principe qui est lié au concept général de l'autorité tel que Dieu l'a présenté dans l'Écriture, c'est que cette autorité, par excellence, elle a d'abord vocation à être collégiale. Je ne vais pas vous faire l'histoire et le démontrer, mais on peut le voir tout au cours de l'histoire d'Israël. Lorsque l'autorité a été monopolisée par une certaine personne, il y avait des dangers. Et dans Proverbes, là encore, où on trouve beaucoup de versets concernant l'autorité, on a ce texte, « Le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Et il n'est jamais question, comme je vous l'ai dit, de chef au sein de ce collège, mais de rôle plutôt complémentaire en son sein, selon les compétences et les affinités de chaque ancien. Alors, quelle est l'origine? Ça pose une question, parce que quand on regarde l'Église officielle dans notre pays, l'Église catholique, pour être très clair, on peut se poser la question, mais comment s'est faite cette dérive hiérarchique que l'on trouve aujourd'hui? Épiscopos a dérivé dans le langage vers évêque, c'est la racine d'évêque. Presbytéros, c'est-à-dire l'ancien, a dérivé vers le mot prêtre. Et donc, peu à peu, au sein de cette collégialité qui était initialement prévue par les apôtres dans les églises, avec l'histoire, très rapidement, il y a eu la prééminence de l'un de ceux-là au sein d'une église, et puis la prééminence au sein d'une ville, et puis la prééminence au sein d'une région. Et on comprend très vite pourquoi on en est arrivé à l'évêque, et on en est arrivé finalement à l'évêque de Rome et au pape. Mais ceci n'est pas conforme au modèle biblique de la collégialité et de l'indépendance des églises locales les unes par rapport aux autres. Quatrième précision ici, ce terme est toujours au masculin. Serait-ce une question de caractère, de compétence, de connaissance de la parole? Certainement pas. Mais Paul est cohérent dans le chapitre 3 avec ce qu'il écrit dans le chapitre 2, tout simplement. Et quelques versets plus haut, au verset 12 du chapitre 2, Stéphane a prêché sur ce texte, « Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. » Et ceci dans un but, c'est que la structure d'autorité au sein de l'Église soit le reflet de ce que Dieu a voulu au départ, que l'autorité soit un service rendu par l'homme, et que la femme lui soit complémentaire dans cet exercice. Et l'Église a vocation à ce que ce qui a été mis à mal par le péché soit restauré en son sein comme une espèce de témoignage de la puissance de Dieu pour recréer une communauté nouvelle de ses enfants, et une communauté qui vit dans l'harmonie et le respect. Et pour cela, il nous faut avoir une bonne conception de ce qu'est l'autorité, et pas une conception faussée, comme nous l'avons souvent du fait de notre société. Les anciens, et une responsabilité particulière, que j'avais dit la dernière fois, ne pas traiter d'emblée, mais venir ici, parce que c'est en lien avec les fonctions, cela figure au verset 2, qu'ils soient capables d'enseigner. D'autres traductions disent « apte à l'enseignement ». Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. dans Tite au chapitre 1, verset 9. C'est une qualification dont découlent deux fonctions essentielles au service de leur conduite de l'Église. Une première chose, c'est une fonction de défense de l'Église, une fonction défensive. La réfutation des fausses doctrines, elles étaient nombreuses à cette époque, et je peux vous dire qu'elles sont tout aussi nombreuses aujourd'hui. Dans notre Église, les anciens, je crois que c'est Raph qui en a parlé il n'y a pas longtemps dans une de ses prédications, les anciens ont eu affaire à des fausses doctrines fondamentales qui étaient diffusées et dont on cherchait à faire la promotion dans l'Église. Et les anciens, donc, ont besoin d'avoir une bonne connaissance à la base de la parole de Dieu, de façon à discerner et avoir la vigilance pour le discerner et le courage pour le dénoncer, de non pas toujours ce qui est radicalement faux, mais de ce qui parfois n'est simplement que presque vrai, et ce qui est presque vrai est faux, et de défendre ainsi la vérité qui a été prêchée il y a maintenant 20 siècles et qui est toujours en vigueur aujourd'hui pour chacun d'un nous. Et ce courage de dénoncer, l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Timothée, dit qu'il doit être exercé avec mesure et avec douceur, mais avec fermeté, bien entendu. Une mesure défensive, donc apte à enseigner, être capable d'exhorter et réfuter les contradictures. Mais une fonction surtout constructive, c'est-à-dire enseigner, exhorter selon la vérité. Et de cette façon, ils exercent leur autorité. Ils façonnent en quelque sorte, conformément à la parole de Dieu qui est la référence, notre propre personne, notre propre conception de la foi, de notre vie spirituelle, de notre piété. Et cela passe par à la fois la prédication publique et à la fois l'exhortation en seul à seul. Et dans 1 Timothée au chapitre 5, le verset 17, il est dit que ceux qui, parmi les anciens, se dédient à la prédication et à l'enseignement, particulièrement doivent avoir un double honneur. Ça laisse sous-entendre que ce n'est pas forcément le cas de tous les anciens que d'enseigner publiquement. Mais un ancien doit être au moins capable d'enseigner en seul à seul, de former des disciples, de les accompagner, de les faire grandir dans la foi. Voilà simplement ces précisions sur cette responsabilité. Nous passons maintenant au deuxième type de charge qui est mis en évidence dans le texte d'1 Timothée 3. Nous avons vu l'épiscopos, l'ancien, qui est aussi un pasteur, un berger du troupeau, qui est un dirigeant, un conducteur, celui qui tient le gouvernail de l'Église. Nous voyons maintenant la deuxième charge, le deuxième terme qui est qualifiant ici. Il n'y a qu'un seul terme ici, je ne vous embarquerai pas dans quatre ou cinq mots grecs. C'est le terme de diakonos, de diacre, qui veut dire littéralement serviteur. Et ce terme, il est relativement peu précis quant à la fonction. Il ne va pas beaucoup nous renseigner sur la fonction, il faudra chercher un petit peu ailleurs pour voir de quoi il s'agit. Parce que nous avons dans l'Écriture toute une famille de mots qui dérivent de diakonos, qui sont le verbe, qui sont le ministère en tant que tel, la diaconie. Et ce sont des termes qui sont énormément utilisés dans le Nouveau Testament, une bonne centaine de fois au moins lorsqu'on les compte dans cette famille de mots. Dans le contexte séculier, c'était le serviteur à la maison. Dans le contexte du judaïsme, c'était celui qui s'occupait des pauvres, des veuves, qui recueillait les aumônes pour les redistribuer. En ce sens, l'association que nous avons dans notre Église, qui s'appelle Grâce, est une association qui remplit pleinement un office diaconal, donc de ce point de vue-là. À propos de Jésus-Christ, il nous est dit qu'il a porté à l'excellence ce ministère de serviteur. Nous avons lu des textes la semaine dernière à ce propos, et avec une marque particulière qui était la sienne, c'est l'abaissement, l'humilité. Le lavement des pieds des disciples la veille de la mort est un des meilleurs exemples de cette humilité de Christ en tant que serviteur, on est bien d'accord. Et d'une façon plus générale, dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que ce terme est employé pour tout exercice d'un ministère, qui est un ministère de service, d'un don. Tout exercice d'un ministère ou d'un don n'est pas une glorification personnelle, l'élévation sur un piédestal, mais au contraire, un abaissement dans le ministère de service, et tout ministère doit être conçu comme tel. Et l'apôtre Paul, je vous rappelle combien il mettait en garde l'orgueil qui menace plus particulièrement les jeunes convertis dans ce domaine. Et à ce titre, donc, quand nous examinons bien l'usage de ce mot dans le Nouveau Testament, nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous appelés à le devenir, encouragés à progresser dans cette tâche. Et si nous devons retenir qu'une seule chose ce matin, retenons cela. Nous sommes tous des diakonos, des diakonoi. Nous sommes tous des diacres au service de l'Église. Mais, il y a dans ce texte de 1 Timothée chapitre 3 une identification d'une charge très particulière. C'est-à-dire qu'il se reconnaît chez certains une envergure, une excellence particulière dans ce ministère de service et dans les qualités spirituelles qui vont avec, qui sont tout à fait identiques à celles exigées des anciens, nous l'avons bien souligné la dernière fois, sauf la capacité à enseigner, qui les fait identifier dans l'Église comme un groupe particulier qui sont les diacres. Il est exigé d'eux qu'ils aient une bonne connaissance de la vérité révélée par la parole, pas forcément qu'ils soient capables d'enseigner. Et à la différence du premier terme que nous avons vu, les anciens, les épiscopes, comme on a dit, on a un certain manque de précision sur la charge en question. Et cela laisse probablement supposer que cette charge, elle a besoin d'être adaptée, définie au niveau local de chaque église locale, en lien avec les anciens qui ont la charge de la conduite générale de l'Église, pour répondre aux besoins spécifiques de l'Église. Une adaptation, donc une souplesse dans l'exercice de cette tâche, mais qui est une tâche malgré tout très identifiée parmi le peuple entier de serviteurs que nous sommes, qui est le ministère de diacre. Et nous verrons un petit peu plus loin, justement, cette articulation que l'on peut trouver entre cette charge de diacre, bien identifiée, et la charge d'ancien dédiée à la conduite de l'Église. Une première question, il y a une question du féminin. Le féminin ne figure pas à propos de... Le féminin, pardon, du mot diacre n'existe pas dans le grec avant la fin du 1er siècle. Et dans ce texte, donc, au verset 11, l'apôtre Paul dit... Il en va de même pour les femmes. Et là, ça a ouvert à une pléthore d'interprétations pour se poser la question. L'apôtre Paul, qui fait une parenthèse dans la description ici, parle des femmes. Parle-t-il des femmes des diacres ? Parle-t-il des femmes des anciens ? Ou parle-t-il de femmes qui, elles aussi, comme les hommes dont on a commencé la description au verset 8, exercent le ministère de diacre et qu'on appelle donc des diaconesses ? On a beaucoup spéculé là-dessus, des femmes qui exerceraient donc un service d'une ampleur particulière de service dans la qualité, mais sans connotation d'autorité. Parce que l'apôtre Paul est cohérent avec ce qu'il a enseigné au chapitre 2 de cette même épître. Alors, on ne va pas développer ici les différents arguments pour ces positions, mais depuis longtemps, avec les anciens dans cette église, nous penchons pour le fait qu'il s'agit de diaconesses, au même titre que les diacres, des femmes appelées au service sans envergure d'autorité et qui sont auxiliaires des anciens. Et dans l'Écriture, on a, dans l'Épître aux Romains, la présentation d'une sœur de l'Église de Rome qui a accueilli l'Église dans sa maison et qui est appelée, dans nos traductions, diaconesse, mais dans l'original grec, diacre, au masculin. Parce que, comme je vous l'ai dit, le mot n'existait pas encore au féminin, dans la langue grecque avant la fin du 1er siècle. Et on a tout lieu de penser que d'autres personnes présentées dans le livre des Actes, dans les Épîtres, pouvaient correspondre tout à fait à ce ministère de diacre et de service particulier au sein de l'Église en lien avec les anciens. On a Priscilla et Aquilas en particulier, qui, d'une façon évidente, ont une envergure de diacre et de diaconesse dans les différentes églises où ils ont eu un ministère. Une autre question qui se pose ici, parce qu'elle n'est pas évoquée dans le texte, c'est la question du nombre de diacres que Dieu veut dans les églises. Pour ce qui est des anciens, on a vu que c'est un minimum de 2, puisque c'est toujours au pluriel et que c'est un collège. 2, c'est déjà tout juste un collège. 3, c'est mieux. La question du nombre de diacres pour les églises de Jérusalem, d'Éphèse, de Philippe, est précisée par l'Écriture. Il y en avait plusieurs, c'est très clair. Pour l'église de Rome également, était-ce lié à la taille de l'Église, aux compétences en place pour assumer cette charge, aux besoins locaux? Comme je l'ai dit, je crois que l'Écriture nous laisse un champ très large d'adaptation, Église par Église, à cette question. Pour les Églises de Crète, à qui l'apôtre Paul écrit dans l'Épître de Tite, il ne précise même pas qu'il y ait besoin de diacres. Était-elle peut-être trop petite, c'est ce que les commentateurs pensent, pour avoir besoin de diacres, les anciens suffisaient à la tâche? En tout cas, ça ne paraît pas être une nécessité. Il y a d'autres églises dans le Nouveau Testament où il semble qu'il n'y avait pas de diacres. Donc il y a une grande souplesse. Notre église a compté jusqu'à 3 diacres au maximum et une diaconesse ou 2 diaconesses dans un passé récent. Actuellement, seule Florence reste en charge auprès des anciens d'une charge officielle de diaconat avec une orientation particulière sur les visites, visites aux malades, visites aux personnes âgées. Et c'est vraiment une bénédiction que de l'avoir. Mais la taille de notre église, son développement, la charge actuelle des anciens qui sont en place, justifie probablement pleinement une réflexion sur la nomination en relais au travail des anciens de 1 ou 2, peut-être diacres. Petit nombre pour ne pas galvauder la fonction. Mais des frères et sœurs chez qui on reconnaisse leur consécration, les qualités spirituelles que nous venons de lire dans le texte d'1 Timothée 3, et qui ont démontré une expérience et une maturité dans la foi. J'approche de la fin en précisant quelle est l'articulation de cette charge, de ces deux charges que nous avons vues ici, qui sont présentées dans 1 Timothée au chapitre 3. La charge d'ancien d'évêque, la charge de pasteur, de berger, qui leur incombe à chacun, et la charge de diacre. On a un texte dans Actes au chapitre 6, où il n'est pas spécifiquement mentionné qu'il s'agisse de diacres, mais on a là, je crois, l'esprit. Je résume très vite ce texte, on n'a pas le temps de le lire en totalité, c'est les versets 1 à 6. L'église de Jérusalem a énormément grandi en nombre, en effectif, depuis la Pentecôte. Il y avait de nombreuses conversions. Il y avait aussi de nombreuses veuves qui bénéficiaient de secours alimentaires. On organisait des repas pour elles, pour leur apporter des aides alimentaires. Et jusqu'à un certain moment, c'était les 12 apôtres qui se chargeaient de ce travail. À un moment donné, il a été fait le constat, premièrement, qu'ils étaient dépassés et qu'ils négligeaient la prière et l'enseignement de la parole, d'une part. Deuxièmement, que dans cette distribution, il y avait un ressenti de discrimination. Et il y a des bruits qui ont commencé à élever avec quelque chose, un enjeu spirituel qui était très fort, qui était la menace de l'unité de l'Église entre les personnes qui étaient d'origine de Judée propre et les personnes qui étaient qui vivaient dans les pays de la dispersion du Moyen-Orient, de culture plutôt grecque. Et donc cette menace était sérieuse pour l'unité de l'Église, à tel point que les apôtres se sont réunis et ont proposé à l'Église de nommer des personnes qui vont exercer un service qui sera qualifié de diaconat. Et je crois qu'on a là un petit peu le début de la dimension de diacre, qui va consister à nommer 12 hommes qui ont des qualificatifs remplis de l'Esprit-Saint, etc., qui collent assez bien à la description de 1 Timothée chapitre 3, et qu'ils vont charger de la responsabilité de la distribution équitable des secours alimentaires aux veuves. On peut se dire, oui, mais c'est des portes casseroles, des portes plateaux, c'est tout, quoi. C'est des tâches extrêmement banales et on est là en train de galvauder la tâche. Là, pas du tout. C'est vraiment pas du tout comprendre le sens de ce texte. Très vraisemblablement, ce sont d'ailleurs passés seuls 12 hommes, puisque les 12 apôtres avant n'y arrivaient pas, qui ont pu y arriver. Ils ont dû se charger de d'autres personnes. Mais ils avaient un ministère qui était à cheval entre le spirituel et le pastoral. Ils avaient pour enjeu de maintenir l'unité de l'Église qui était sérieusement menacée. Et il a fallu pour cela, non pas simplement appeler au service des gens qui avaient 2 jambes et 2 bras pour porter les plateaux et les amener sur les tables aux veuves, mais il a fallu appeler des personnes qui avaient une haute qualification spirituelle. Et on a là, je crois, en miroir un peu, ce que doivent être les diacres. Ils sont des auxiliaires des anciens. Ils agissent sous leur responsabilité. Et ils sont là pour les aider dans le ministère, avec une connotation spirituelle qui est souvent forte, mais pas d'autorité propre. S'il y a autorité, elle n'est que déléguée sur des missions spécifiques. Et donc, même si nous sommes tous appelés à être serviteurs d'une certaine façon, il ne faut pas que nous galvaudions non plus cette charge. L'Écriture ne le fait pas et nous ne le démontre pas. Si l'apôtre Paul a consacré tout un paragraphe spécifique au diacre, c'est parce que ça le mérite. Et que cette structure de conduite de l'Église, l'autorité qui repose sur des anciens, qui l'exercent avec bienveillance, amour, patience, en rendant compte avec des diacres qui les aident qui sont au service de l'Église dans le domaine spirituel, éventuellement aussi matériel, mais surtout pas que, eh bien c'est une structure d'équilibre qui est pour le bien de l'Église et que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de toutes ces deux prédications ? C'était un peu un marathon. Je sais que la matière était importante pour ces deux prédications et j'ai eu le plus grand mal à essayer de tout faire rentrer dans deux prédications. La première chose, c'est qu'en devenant des enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait don de son ADN. Il a été le parfait serviteur et nous avons à manifester ce qui est notre ADN d'enfant de Dieu. Être nous-mêmes des serviteurs qui tendons vers la perfection dans notre service, dans le souci que nous y mettons, dans la consécration que nous y mettons, dans les qualités spirituelles qui entourent notre service, à quelque niveau que ce soit dans l'Église, y compris dans le domaine matériel, que nous puissions tout faire selon ce modèle que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 3, qui concerne chacun, c'est la personne mûre en Christ, que nous puissions être les uns et les autres, d'abord et avant tout, des personnes mûres dans le Seigneur, dans notre foi, et serviteurs de notre Dieu, serviteurs de l'Église, qui est la famille de Dieu, l'Église du Dieu Saint, que nous prenions la mesure de l'enjeu. Pendant ces deux prédications, j'ai essayé de donner un petit peu le relief que la parole de Dieu donne à ces deux charges que nous avons évoquées ici. Et les exigences sont hautes, aussi bien pour les anciens que pour les diacres, s'il y en a. Mais elles ne font pas d'eux des êtres exceptionnels. Ils sont faillibles, ils sont fragiles, et nous avons besoin de nous garder de les idéaliser et de nous garder de les idolâtrer. Nous avons besoin d'imiter Jésus-Christ, de nous conformer à sa parole, pas à des personnes. Nous pourrions être peut-être un jour déçus. J'ai cité des exemples la semaine dernière. Leur service pour l'Église exige beaucoup, a de nombreuses exigences. Et je pense qu'ils sont en droit d'attendre, je l'ai déjà abordé impartiellement la semaine dernière, de notre part, la prière pour eux, nos encouragements fréquemment, nos exhortations parfois, mais données avec grâce, nos répréhensions peut-être, et surtout notre collaboration active toujours. Ils ont besoin à leur côté de diacres, mais ils ont besoin aussi d'un peuple de serviteurs qui veut servir le Seigneur et servir la communauté des enfants de Dieu. Que nous puissions bénir notre Seigneur pour la sagesse qu'il a inscrite dans l'Église, qui se veut être, je vais afficher le verset la dernière fois, un témoignage donné aux autorités célestes que ce qu'il fait, qu'il restaure dans l'Église, conformément à son dessein depuis la création, est parfait et que c'est pour le bien de l'Église. Et que nous puissions reconnaître que le Seigneur veut bénir son Église au travers de la mise en œuvre de tout cela dans nos vies à chacun, dans la vie de nos anciens, nos responsables, dans la vie des diacres de notre Église. Je vous invite à chanter un chant 49 qui servira aussi d'introduction à la scène que nous allons prendre très rapidement maintenant. Ce chant, c'est le 49. Je pense qu'il avait été signalé au groupe de... Oui, c'est pas une surprise. Le 49 qui parle du roi serviteur qui est venu jusqu'à nous quittant la gloire de son ciel et qui est venu pour servir, donnant sa vie pour nous sauver. Apprenons donc, c'est le dernier couplet, à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Que nous puissions être une communauté de serviteurs, une communauté de personnes qui s'aiment les unes les autres. Amen.